cadre de la série documentaire Itinérance, produite par l'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie, avec le soutien de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, FM+, présente en partenariat avec Jazzin, Radio Languedoc et l'Écho des Garrigues, Exil et accueil de la Retirada à aujourd'hui.
J'imagine que les siècles à venir se souviendront de nous, de notre siècle du XXe ou du XXIe, comme les siècles des migrations, pas comme les siècles des guerres, parce que ce sont les migrations qui ont plus profondément et pire que les guerres mondiales vidé les terres, les pays.
On peut imaginer, à l'instar de l'auteur transalpin Harry De Luca, que notre époque restera celle de toutes les migrations. On peut aussi admettre que l'histoire a la manie de bégayer, que les déplacements de populations fuyant les conflits, les persécutions ou la misère, avec leur grande diversité de causes et de contextes, demeurent au fil des siècles, voire des millénaires, une triste constante. Si l'impact sociétal des migrations contemporaines semble culminer de manière inédite, c'est peut-être parce que nos réseaux globalisés ne nous permettent plus d'ignorer quoi que ce soit et que chacun, en proie à la frayeur ou au désarroi, est désormais le témoin du sort de tous. Dirigeants et responsables politiques peu scrupuleux ont ainsi compris ce qu'ils avaient à gagner en agitant le spectre de la submersion étrangère, comme s'il était inacceptable et honteux de chercher simplement à vivre.
Chez toi, c'est où ?
C'est moi, on nous parle.
Réfugiés, déplacés, demandeurs d'asile, migrants, au fond, peu importe l'étiquette. Dès le jour du départ, et pour chacune de ces 65 millions de personnes recensées aujourd'hui dans le monde, un même mot suffit à résumer l'itinérance.
L'exil. Tu parles de fuite, tu parles de déchirure. Et l'exil rime avec le fil de cette fatalité la veille qui tirait sur ta corde, la sensible.
Sans prétendre à une analyse globale, ni à un état des lieux exhaustif, nous avons souhaité, à travers cette production, donner la parole à des descendants de réfugiés, ainsi qu'à des écrivains, à des artistes, à des chercheurs, à des représentants d'associations, et à des personnes ayant risqué leur vie en Méditerranée sur des embarcations de fortune. L'idée étant de croiser leurs témoignages ou leur expertise, et de tenter de mieux comprendre comment est vécu ou perçu l'exil d'hier et d'aujourd'hui dans la France de 2020.
Il fallait que je quitte mon père, ma maman, mes frères et sœurs, mes amis, et pour me retrouver tout seul, c'est souvent comme ça.
Donc, nous sommes contemporains de ce siècle d'énormes migrations d'êtres humains sur la surface de la planète.
Harry De Luca.
Et donc, je voudrais être le poisson pilote d'un Homère qui écrira et l'odyssée de l'humanité qui arrive sur les côtes de notre ancienne mer commune.
Qu'on l'a vu, les populations déplacées, presque stratégiquement, avec des conceptions du politique qui déplacent les populations.
Olivier Abel, philosophe.
Notamment la conception nationaliste, qui procède par purification ethnique ou même échange de populations, comme par exemple entre l'ancien empire ottoman et les Balkans, musulmans et chrétiens ont été échangés comme ça. Donc c'est des souffrances épouvantables, gens qui sont déracinés de leur pays, ça fait des bases pour des sociétés très très fragiles finalement. C'est ce qui s'est beaucoup produit aussi dans le Proche-Orient. Ça s'est aussi beaucoup produit en Europe, en fait. Ce sont pas seulement des États qui s'écroulent, parce que finalement, la mondialisation fragilise beaucoup les États dans leurs prérogatives un peu classiques de protection des populations. Ce sont les sociétés qui se défont. Alors, quand les sociétés se défont, elles sont jetées dans la violence, dans la guerre civile. C'est tout à fait autre chose. Un exil dû à une attaque extérieure et un exil dû à une guerre civile. La guerre civile, ça déchire beaucoup plus profondément la société. Même les familles peuvent être déchirées, mais ça déchire tout le tissu social. Et ça fait des exils qui mettent beaucoup de temps à cicatriser.
Vous parliez d'exil. Personne ne choisit de quitter son pays comme ça, juste parce que voilà.
Agnès Sajaloli, directrice du mémorial de Rivesaltes.
Personne ne choisit de venir à Rivesaltes. On fuit la mort, que ce soit pour les Juifs, pour les Espagnols ou pour les Harkis. Évidemment, ce sont chaque fois des drames, un déracinement total. L'angoisse d'être là, vous imaginez des Harkis qui arrivent, qui partent d'Alger ou du camp de Zeralda en novembre 62. Ils arrivent à Rivesaltes. Ceux qui connaissent un peu le camp savent combien il fait froid. Il y a des enfants qui meurent de froid, des vieillards. Voilà, c'est extrêmement lourd.
Nous avons tous la mémoire courte.
José Garcia, vice-président de CAMINAR, coordination nationale d'organisation mémorielle des descendants et amis des exilés de l'Espagne républicaine.
En 39, février 39, l'exode le plus important quant au nombre de personnes, près de 500 000, aujourd'hui, il y a des gens qui fuient leur pays parce qu'ils risquent leur peau. Et beaucoup meurent en traversant la Méditerranée. Ils ne quittent pas son pays par plaisir, avec tous les risques. On ne laisse pas les enfants, on ne laisse pas sa femme comme ça. C'est qu'il y a bien une raison. Renvoyer ces migrants, mais c'est vraiment absurde. On sait qu'ils vont à la mort. Donc ce parallèle, nous, petits-fils d'exilés, peut-être que nous le ressentons plus que d'autres.
Si on envahit, c'est par le capital, les frais financiers, tous les gaspillages de ceux qui s'enrichissent en dormant, disait Mitterrand.
Jean Ortiz, maître de conférence honoraire de l'Université de Pau.
Ce sont ceux-là qui affaiblissent la France, ce n'est pas les immigrés. C'est trop facile de trouver des boucs émissaires. Les immigrés, ce sont mes frères. Et s'ils sont partis de leur pays, s'ils ont risqué la mort, ce n'est pas par plaisir, c'est par obligation, c'est par nécessité absolue.
Dans l'exil, le plus souvent, on fuit la mort.
Abdelwahab Sefsaf, musicien.
C'est pas l'exotisme, l'exil, c'est pas le tourisme, c'est la fuite. On quitte la terre de ses ancêtres, c'est douloureux, je pense que tout le monde peut l'imaginer, et le plus souvent pour se sauver soi-même, mais aussi sauver ceux qu'on aime.
Aujourd'hui, lorsque j'entends parler des migrants, ça fait écho, oui, systématiquement pour moi.
Victoria Plaza, fille de réfugiés espagnols.
Je viens de là, et mes parents ont vécu ça. Et quand j'entends parler de flux migratoires et d'invasion migratoire, quand on connaît le nombre d'Espagnols qui sont passés, c'était quand même énorme. Et aujourd'hui, je trouve que c'est faux ce qu'on dit et qu'on fait peur aux gens. Et moi, ça me met très, très en colère. Et bien évidemment que quand on sait ce que nos parents ont vécu, on sait très bien qu'ils ne sont pas venus de gaieté de cœur. C'est des gens qui souffrent, qui cherchent à vivre, tout simplement, correctement, et à fuir les guerres ou les talibans ou au Soudan, l'horreur. C'est ceux que j'ai rencontrés, moi.
Je pense que la deuxième génération les fils d'exilés républicains espagnols, puisque la première est très, très, très clairsemée.
Geneviève Dreyfus-Armand, historienne.
La deuxième génération se sent souvent une obligation d'intervenir dans le temps présent et porter aide à ces réfugiés qui ressemblent vraiment beaucoup à leurs parents il y a 80 ans. Ce n'est pas simplement explorer le passé vieux de 80 ans, c'est essayer de comprendre qu'aujourd'hui, en 2019, des gens, des hommes, des femmes, des enfants sont obligés de fuir leur pays pour fuir la guerre, pour fuir les massacres, pour fuir les persécutions. Aujourd'hui, les réfugiés sont nombreux à frapper aux portes de l'Europe, parce que nous avons la chance en Europe, quand même, de vivre dans des pays pacifiques, pacifiés et relativement nantis.
Je suis né à Sikasso, au sud du Mali.
Bakary, 26 ans, demandeur d'asile.
La première fois quand j'ai quitté le Mali, c'était seulement pour l'Algérie. J'étais à la quête d'un métier parce que au Mali, c'est très très difficile souvent d'apprendre quelque chose et puis d'être très qualifié dans ça. J'avais aimé ça, aller apprendre dans les BTP, dans les bâtiments en Algérie. Mais une fois sur place, j'ai eu des problèmes avec notre consul qui est là-bas, avec le monsieur. C'était une histoire de l'escroquerie. On a demandé un rapatriement immédiat pour retourner au Mali. Comme vous savez, en Afrique, il faut avoir des bras longs ou bien quelqu'un qui est bien placé pour pouvoir avancer les choses. Pour nous, c'était pas le cas. Et puis, le monsieur, il nous a devancé. Je me sentais pas en sécurité. Je me disais, s'il y a des morts, donc peut-être mon tour aussi va arriver. J'ai quitté directement. Il faut tenter. On préfère ça que de retourner. Non, parce qu'on sait ce qui nous attend là-bas. Souvent, c'est la mort. Oui, c'est ça qui nous attend souvent.
Je suis fille de deux personnes qui ont quitté leur pays. Adolescent.
Mireille, née en 1942 à Montpellier, de parents réfugiés polonais.
Alors mon père, c'était parce qu'il avait faim, et ma mère pour des questions politiques. Elle a été exilée de Pologne à Danzig. Là, elle s'est dit qu'elle ne retournerait pas en Pologne et qu'elle viendrait en France pour la liberté.
J'ai adhéré à la CIMAD depuis 25 ans, parce que je pensais que le combat pour le respect de la dignité des hommes, quelle que soit leur nationalité, leur culture, c'était un combat qui allait en parallèle ou dans la continuité de mon travail d'enseignant.
Pierre-Louis Chevalier, militant associatif.
Il y a ce leurre aussi qu'ailleurs, l'autre côté de la Méditerranée, ça serait mieux. Mais c'est aussi parce que le système politique en vigueur dans ces pays, il est totalement insupportable. Le patriarcat, l'exploitation des richesses du pays par une minorité corrompue, vénale, fait que l'exil apparaît une solution préférable à la vie au pays. L'incurie de leurs dirigeants, ça c'est une réalité, mais c'est aussi parce que la plupart ont été mis en place par les grandes nations coloniales, la France par exemple, hein, ce qu'on peut appeler aujourd'hui le post-colonialisme. Si les conditions économiques, on va dire d'aide au développement, permettaient aux personnes de rester chez elles, elles le choisiraient. On a envie de parler sa langue, on n'a pas envie de ne pas pouvoir fermer les yeux de sa maman, voilà. Donc l'exil est une violence, toujours.
On fait ça seulement pour être protégé, c'est ça.
Ces jeunes-là, ils partaient, ils fuyaient la guerre, d'accord ? Mais la plupart fuyaient surtout la dictature.
Carmen Guillén Salvador, association culturelle Colonia Española de Béziers.
C'était des républicains, ils ne voulaient pas supporter la dictature du franquisme. Pour eux, la France, c'était le pays frère. D'ailleurs, la République espagnole qui avait été votée en 1931, ils disaient que c'était la petite sœur de la République française. Donc pour eux, la France signifiait beaucoup. Et ils pensaient qu'on allait les aider. Et en fait, l'accueil a été très, très mauvais.
La retirada. C'est ainsi que l'on désigne cet exode massif. Un demi-million d'Espagnols, hommes, femmes et enfants, fuyant précipitamment leur pays pour trouver refuge en France. L'afflux se concentre sur les premiers jours de février 1939. Avec son lot de drames humains, cette séquence historique, dont on commémorait en 2019 les 80 ans, constitue, du moins pour ces populations, l'épilogue d'une guerre civile qui aura plongé leur pays dans le chaos pendant plus de 2 ans, esquisse de la déflagration qui allait bientôt balayer l'Europe, puis le monde.
La guerre des armées contre les désarmés.
Harry De Luca.
Ça, c'est la spécialité de la guerre moderne, le bombardement aérien. Elle commence à Guernica, tirée sur une concentration humaine et l'acte de terrorisme par excellence.
Le déclenchement de cette guerre, c'est l'insurrection, en juillet 1936, d'un groupe d'officiers déterminés à renverser le gouvernement de Front Populaire, sorti des urnes espagnoles quelques mois plus tôt. Avec le soulèvement d'une partie de l'armée, les puissants antagonismes qui tiraillaient la société espagnole se cristallisent en une brutale rupture. Le pays se divise instantanément en 2 camps désormais ennemis. Révolutionnaires et républicains loyalistes, mus par le désir de progrès social, contre tenants d'un ordre ancien, plutocratique, monarchique et religieux, résolus à imposer à n'importe quel prix l'idée qui est la leur d'une Espagne éternelle.
Moi je crois que les valeurs de justice sociale,
Jean Ortiz,
contre les inégalités, les valeurs de partage, l'éducation, la création de 6000 écoles, l'enseignement qui était sous la coupe de l'Église, il devient laïque, il devient mixte, public, obligatoire, etc., etc. Je veux dire, c'est 100 fois trop pour les possédants, pour l'Église, pour les grands propriétaires, pour l'armée, c'est 100 fois trop.
Après des mois d'affrontements sanglants et d'exécutions sommaires par milliers, qui n'épargneront pas les civils, la victoire des nationalistes est proclamée le 1er avril 1939 par leur chef de guerre, leur caudillo, dont le règne sans partage durera ensuite près de 4 décennies. Humiliation, coercition, incarcération, travaux forcés et exécutions de masse pour les Rouges restés au pays. Exil irrévocable pour ceux qui ont pu gagner la France, l'Amérique latine ou encore l'Afrique du Nord.
Même si la connaissance de ces exils des républicains espagnols a avancé au terme des décennies qui viennent de s'écouler,
Odette Martinez-Mahler, chercheuse et documentariste.
Il restait encore énormément de gens qui n'avaient pas pris la mesure de ce qu'ils représentaient, des histoires en fait dont étaient porteurs et porteuses les personnes qui se sont retrouvées sur les routes de l'exode à ce moment-là.
Avec son ampleur, sa soudaineté, avec sa multiplicité de vies chavirées, avec ses commémorations, avec son legs mémoriel, fréquemment arboré par les descendants même de celles et ceux qui l'ont vécu comme une cicatrice de l'âme, cet exode-là charrie aujourd'hui encore un puissant imaginaire de part et d'autre des Pyrénées.
Moi je considère, si vous voulez, 4 fils rouges, ça se mérite, ça se gagne en participant aux luttes d'aujourd'hui.
Ça c'est, je pense, très important de ne pas dissocier ces exils liée à la guerre d'Espagne et la situation des migrants aujourd'hui.
Odette Martinez-Maller.
De ne pas congeler cette mémoire, de ne pas la fossiliser, de ne pas faire un objet détaché du présent, de ne pas la muséifier. Toutes ces commémorations, ça a révélé des rapports au passé différents entre des acteurs associatifs, par exemple, qui cherchent justement à se situer dans un registre de mémoire exemplaire. Le passé n'est pas toujours passé, il est encore porteur de valeurs et de leçons pour le présent. Et puis, quand même, ce qu'on a pu voir se développer beaucoup, une forme de patrimonialisation de ces mémoires, qui les convertissent en objets culturels, muséal, qui les muséifie, qui les fossilise et qui les vide un peu de leur contenu.
Ce souvenir sans figer. En amont de la mise en récit, il y a l'itinérance, le franchissement périlleux de frontières à la fois politiques et naturelles, et les hommes qui en détiennent les clés.
Les migrations d'êtres humains sur la surface de la planète, qui se déplacent à pied sur la planète et comme ça déplacent la planète.
Harry De Luca.
C'est une expérience humaine si énorme qu'elle a besoin de l'épique.
J'avais 12 ans et demi. Un matin de juillet, on a été réveillés par l'aviation qui est venue nous bombarder.
Carmen Toro Arjona, arrivée en France à l'âge de 15 ans.
La nuit, on est parti vers Malaga. Et on a marché toute la nuit. Puis là, on a passé la Sierra Antequera. Et crois-moi, là, quand j'y pense, j'ai froid. C'était en été, mais une sierra, c'est une montagne. Hein. Et dans la nuit, et puis on n'avait rien. C'était l'été, on n'avait rien sur nous. On a sorti du lit. Moi, j'avais qu'une robe sur moi, une petite robe blanche. C'est à Malaga qu'après on nous a donné des habits. Ils nous ont mis dans une grange et avec de la paille, l'aviation venait bombarder les bateaux et la ville. Et quand ils ont pris Malaga, on est parti vers l'Almeria, à pied aussi. Et puis c'est là qu'il y a eu tant de morts sur la route, à montrer l'aviation qui venait nous mitrailler. Il y avait deux murailles dans les deux côtés de la route et on se mettait contre la muraille parce qu'ils nous mitraillaient. L'Almeria, déjà, on était tellement du monde qu'on arrivait, mais nous mettaient dans des trains. À Valencia, nous ont éparpillés partout, nous ont dispersés, nous mettaient dans des refuges, mais c'était des pièces aussi, même pas de limériens. Hein. De là, il fallait partir ailleurs. Pendant 3 ans, on a fait ça. Et on était réfugiés.
Mon oncle connaissait déjà des gens qui pouvaient faire des faux papiers pour pouvoir passer les gens à l'aéroport pour rejoindre un autre pays.
Bakary, 26 ans.
C'était des policiers. Une fois en Algérie aussi, ils m'ont dit, arrivé là-bas, il faut appeler telle personne, il va venir te chercher à l'aéroport. Je suis allé chez lui, j'ai fait à peu près un mois chez lui, je ne sortais même pas avant de rentrer en Libye. Et là-bas aussi, on passe par des personnes qu'on ne connaît même pas. Ils nous passent comme ça, c'est des passe-passe jusqu'à l'arrivée souvent. C'est qu'il y en a beaucoup qui ont été emprisonnés, même j'ai vu des vidéos, il y en a qui ont été vendus. Mais moi, ça n'a pas été mon cas. Une fois là-bas, et on me dit, il faut aller chez telle personne, je suis allé. Et puis, je reste là-bas jusqu'à ce que l'autre personne vienne me chercher. J'ai vu, il y a des Zodiacs, il y avait 100 et quelques personnes dedans. Mais pour nous, c'était 87 personnes.
On intervient entre les deux rives, dans un endroit totalement improbable. On a l'habitude d'appeler ça des limbes.
Hein. Jean-Pierre Lacan, administrateur de l'ONG SOS Méditerranée.
Parce que malheureusement, les limbes, c'est un peu l'antichambre de l'enfer. Il y a des statistiques officielles, elles disent que depuis 2014, on serait un peu au-dessus de 18 000 morts et disparus en Méditerranée, mais on n'est pas sûr du tout que ça soit l'exacte réalité. Ce sont des exils un peu particuliers, puisque l'exil, c'est un pays de départ et c'est un pays d'arrivée. Et là, on a des pays de départ, on a un pays de convergence, la Libye, et puis il y a une sorte de fuite terrible, parce que la Libye est un pays en plein chaos aujourd'hui, en pleine violence. On fuit et on se trouve là, dans les limbes.
Je viens du Sénégal. J'ai quitté chez moi à l'âge de 13 ans et j'ai passé par la Mali.
Aliou, 17 ans.
Burkina-Niger. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé en Libye. Mais dès qu'on est arrivé en Libye, donc on a trouvé quelque chose que personne n'imaginait. En entrant en Libye, on nous a kidnappés. C'est une kidnapping parce que ce n'est pas des policiers, ce n'est pas des gens qui travaillent dans le gouvernement. Je pense que ce sont des gens qui profitent. Et moi, je me suis retrouvé dans un endroit vraiment sombre, beaucoup de monde, ça veut dire. Et on m'a demandé d'argent, il faut que j'appelle mes parents ou bien mes proches, ou bien les gens que je connais ici en Libye pour qu'ils envoient l'argent pour que je sois libre.
Avec la fin du régime terrible de Kadhafi.
Jean-Pierre Lacan, SOS Méditerranée.
Ce sont les milices armées qui avaient fait la révolution, qui ont pris le pouvoir, qui n'ont pas été désarmées. Et ces milices, aujourd'hui, font la pluie et le beau temps en Libye. Et surtout, ce sont elles qui contrôlent toujours les voies migratoires, le stock de migrants qui se trouvent en Libye, parce qu'on le gère comme un stock, c'est-à-dire comme une vulgaire marchandise. On vend sur des marchés aux esclaves les hommes, les femmes, les enfants. Quand ces gens, au bout de la route, se disent que pour échapper à cet enfer, il n'y a qu'une seule solution, c'est la mer, et ils s'embarquent sur des embarcations de fortune, tentent de fuir. Dans la meilleure des cas, ils se trouvent au bout de la route, au milieu de la mer, un bateau d'une ONG qui va venir les récupérer. Et dans le pire des cas, la mort. Entre les deux, l'arrivée de garde-côtes libyens qui vont les ramener en Libye et les réinjecter dans le stock de l'exploitation humaine.
En tout cas, tout ce que tu peux imaginer s'il maltraite un être humain, ça existe là-bas.
Aliou, 17 ans.
Je ne peux pas dire tous parce que je n'ai pas vu tous, mais je sais qu'il y a des gens aussi. Quand ils te rencontrent, leurs histoires, ce qu'ils ont rencontré, tu vas étonner. En plus, il y a des jeunes qui ont des armes à feu. Tu pars chercher un travail et tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Donc tu ne peux pas méfier. Tu peux méfier ce qui est devant toi, mais ce qui est derrière toi, tu ne peux pas. J'ai eu la chance parce que c'est un vieux. Lorsqu'il m'a vu, il a pitié de moi parce que j'étais le plus petit parmi tous les prisonniers qu'on avait kidnappés. J'avais 14 ans et quelques mois. Du coup, il m'a fait libérer. Bon, il m'a amené chez lui. Mais en me demandant si je voulais retourner chez moi ou bien je voulais continuer. En me demandant, j'ai dit non, je préfère de continuer. Il ne m'avait pas retourné. Pour rejoindre la Sicile, ça veut dire rejoindre le territoire européen.
Celui qui nous a amené, c'était un Égyptien. Lui aussi, il venait ici, sur l'Italie. Donc, il dit, ok, vous allez partir telle heure. On a fait regroupement et on est monté sur Zodiac. Puis le monsieur, il est monté cagoulé. Personne ne voyait ce visage. Et puis, on a décollé vers 7h30. Quand on était à peu près, on avait dépassé l'eau tunisienne. On était sur international. Donc, comme ça, le moteur ne passait plus. Donc, on a fait à peu près 45 minutes en attendant. Il y a eu des appels, des numéros, je ne sais pas. Les gens, je ne sais pas comment ils coordonnent. À partir de 12h30, 12h45, comme ça, on a vu le bateau de MSF comme ça qui est venu nous sauver. Les vêtements qu'on avait, c'était très sale. Ils nous ont donné des piles et puis des nourritures à manger. Les gens qui étaient très, très fragiles, ils nous ont donné des médicaments. Il y avait des médecins qui faisaient le tour pour voir ceux qui étaient un peu malades et prendre soin d'eux. Ils nous disaient, restez calme, on va chercher solution, on va appeler les autorités italiennes pour que vous pouvez descendre sur le sol italien. Et troisième jour qu'on était sur le bateau, même on devrait descendre ce jour-là, mais les autorités italiennes n'ont pas accepté qu'on descende à Lampedusa. Ils ont dit qu'il faut continuer, c'est jusqu'à Crotone. On est allé là-bas, puis on est descendu là-bas cinquième jour.
Quand on fait un sauvetage avant de débarquer des gens, 5 jours de mer, c'est 5 jours de trop. On est dans l'urgence.
Jean-Pierre Lacan, SOS Méditerranée.
On est affaire à des gens qui ont frôlé la mort, qui sont dans des conditions de santé absolument déplorables. Donc il faut aller vite, il faut les débarquer rapidement. Et pour l'instant, on n'en est pas encore là. Parce que les mécanismes de répartition solidaire des naufragés au moment de leur débarquement ne fonctionnent pas normalement.
On nous a envoyé dans une ancienne base militaire. Ils nous ont donné des nourritures, des chaussures, des vêtements, des dentifrices, tout. Deuxième jour, ils sont venus pour relever des empreintes. Puis ils nous ont dit qu'ils vont dispatcher les gens. Puis ils m'ont envoyé dans une petite commune qui s'appelle Carpi, à côté de Modena. Des gens là-bas qui s'occupaient de nous comme des sous forme d'associations. Ici, on les appelle les assistants sociaux. Là-bas, on les appelle les opérateurs. C'est d'abord un problème de langue qui pose en Italie. chez nous, il n'y a personne qui parle italien là-bas. Donc, alors que même à l'école, on apprend français. Donc, on se sent proche de la France plus que les autres pays européens. Donc, c'est pour cela que je me suis dit, OK, je vais venir sur France. Et c'est là que je vais faire ma vie en Europe ici. Je ne connaissais personne. Je suis arrivé comme ça. Comme je vous ai dit, même pour traverser la frontière, ça a été un peu difficile. J'ai tenté 8 fois. Même ces jours-là, quand je suis rentré, ils m'ont pris encore à la gare. Et vers 14h, c'était le 9 juillet 2018. Ils m'ont enfermé pendant 6 heures et puis 20 minutes. Après, ils ont dit, oh, on va te rapatrier chez toi. J'ai dit, non, vous ne pouvez pas me rapatrier chez moi parce que j'ai un problème là. Et puis, ils m'ont laissé rentrer comme ça.
J'ai passé le Sicile, j'ai passé Palermo, j'ai venu à Milano et Ventimiglia. À ce moment, j'ai pris le train, j'ai fourni à Nice. Et c'est à ce moment qu'on m'a pris, j'ai fait un mois, après on m'a transféré ici à Montpellier.
Jusqu'à qu'on est arrivé à la frontière. Llivia, c'est à côté d'Andorre. C'est là qu'on a resté plus longtemps, à Gerona et à Llivia.
Carmen Toro Arjona.
On partait, qui nous envoyait. Hein. Et puis en 39, février 39, on a passé la frontière. Oh là là, ça je me rappelle aussi. On a passé la frontière, il pleuvait. La frontière, les Pyrénées, on a passé par les Pyrénées, on pensait qu'on était sur les routes, on a passé par les montagnes. Il faisait du feu, on séchait le peu d'habits qu'on avait. On n'a pas passé les Pyrénées comme ça en quelques heures. Hein. On n'avait rien du tout avec nous, on n'avait même pas d'habits. Le peu que nous donnait quand on passait d'un côté ou de l'autre, sinon on n'avait rien du tout. Pareil que les sans domicile fixe, là. On couchait n'importe où, on mangeait si on avait à manger, si on nous donnait à manger. Oh, mais c'est un miracle qu'on est vivant là. Oh, on a souffert, hein. C'est après qu'une fois en France, à la frontière, ils nous ont séparés.
Mon père et les compagnons de résistance de mon père passent la frontière au terme de 5 années de résistance armée au franquisme dans les montagnes du nord-ouest de l'Espagne, en Léon-Galice.
Odette Martinez-Maller.
Tous ces gens se cachent dans les montagnes. Le fait est qu'entre 47 et 51, ces groupes armés continuent de plus en plus isolés, de plus en plus fragilisés, et que la question se pose évidemment à un moment donné de passer de l'autre côté de la frontière si on peut et comme on peut et avec les moyens du bord. Donc mon père va passer cette frontière en 1951 avec 4 de ses compagnons d'armes et ma mère va passer la frontière en mai 52.
Des frontières, des exils, des accueils, autant de vécus dont aucune directive, aucun décret ne saurait gommer les singularités. Vintimille ou Le Pertus, Rivesaltes ou Calais, Toulouse ou Montpellier, des noms inconnus souvent perçus par les rescapés de l'exil comme des points de chute tout à fait provisoires. Le péril est derrière, mais devant, c'est un pays étranger, avec ses lois, son administration et ses habitants.
La CIMADE, alors, elle commence, je crois, en 39-40.
Pierre-Louis Chevalier.
C'est l'arrivée dans les camps au moment où le franquisme l'a emporté sur les républicains. Les premiers camps, citoyens mal accueillis en France, donc les camps de Gurs, d'Argelès, où des centaines de milliers de réfugiés demandent à la France, qui n'est plus à cette époque la France du Front Populaire, c'est une France qui se ferme et qui reçoit très mal ces centaines de milliers de personnes. Ils sont dans des camps, ils sont parqués dans des camps. La France était une république et là il y avait des républicains qui demandaient à un pays frère de les accueillir.
C'était difficilement compréhensible, surtout que pour les Espagnols, la France c'était un modèle.
Emita Diaz de Begar, vice-présidente de l'association Filles et Fils de Républicains Espagnols et Enfants de l'Exode.
C'était le pays de la liberté. Alors, en fait, de liberté, ils sont tombés de très, très haut.
Sur cette plage d'Argelès, en février-mars 1939, la première chose qui a été faite, c'est de circonscrire le camp avec des fils de fer barbelés et le faire garder par des militaires.
Bernard Rieux, élu de la municipalité d'Argelès-sur-Mer.
Il n'y avait pas encore de baraques construites et effectivement, ils devaient creuser des trous dans le sable avec une couverture et se mettre à l'abri. C'était des terriers de lapin, ils appelaient ça Cunillas. En 1939, il y avait un hiver très froid avec du vent. Notre tramontane, qui quand elle souffle l'hiver, est vraiment pénible à supporter pour ceux qui étaient internés dans ce camp.
Mon grand-père n'a pas fait partie de la retirade, mais a été un combattant républicain qui a été enfermé en prison pendant plusieurs années.
Sandra Hurtado Ross, musicienne.
Tout le long de ce pèlerinage à Argelès, j'avais le ventre noué et la gorge serrée. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mon grand-père et à toutes ces personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain privées de leur liberté, en fait.
C'était un exil d'indésirables. Et c'est pour ça que les autorités françaises ont criminalisé cet exil, l'ont reçu dans des conditions effroyables, épouvantables, etc.
Une fois en France, à la frontière, nous ont séparés.
Carmen Toro Arjona.
Femme et enfant d'un côté, homme de l'autre. Donc ton oncle Pépé, il avait 17 ans lui. Et puis ton grand-père, ils ont été séparés de nous. Et les autres dans les camps de concentration. Là, du côté de Perpignan, là ils nous ont mis dans les trains, les femmes d'un côté et les femmes de l'autre. Mon frère Antonio, il avait 2 ans de moins que moi, lui, il était bien avec nous. Mais Pépé, qui avait 2 ans de plus que moi, il était avec mon père. Ils l'ont envoyé dans le Var, dans les Arcs, ça s'appelait là où c'était. Et puis nous, ils nous ont envoyé à Montluçon, dans l'Allier. On a resté 3-4 mois dans un établissement thermal, à Néry-les-Bains. Au mois de mai, les curistes venaient faire la cure et bien nous ont séparés. Famille par famille, on a été à Vitré, un petit village derrière.
République française. Le
directeur de l'accueil, c'était aussi les gens qui se sont démenés pour les accueillir, notamment la famille de ma mère.
Victoria Plaza, fille de Carmen Toro Arjona.
Mon père, c'est moins précis parce qu'il a eu un autre parcours. Donc, si on peut parler d'accueil dans les camps, c'en était un quand même, pas très chaleureux. Et ensuite, l'aide de maires de certaines communes, notamment un maire communiste d'un petit village, qui les a accueillis, et qui s'est démené pour retrouver le reste de la famille, puisqu'ils avaient été séparés au passage des Pyrénées. Donc ils étaient répartis dans les villages, mais il y en avait quand même dans l'Allier, il y en avait pas mal.
Pour les réfugiés de 1939, notoirement mal accueillis par un gouvernement républicain, dont un décret mentionne officiellement le statut d'indésirable, il n'y a bien sûr rien à attendre du régime qui lui succède, pour qui les étrangers sont dangereux pour l'ordre public ou en surnombre dans l'économie nationale.
On n'a pas été accueillis bras ouverts, loin de là.
Elena Ferrer.
Pendant toute l'occupation, il y avait la menace, si vous n'êtes pas content, on vous expédie en Espagne. Et avec le régime de Vichy, il n'y aurait pas eu aucune difficulté.
Le maréchal Pétain, accompagné par l'amiral Darlan, arrive à Montpellier, où il va recevoir le général Franco. Le maréchal et le chef de la Nouvelle-Espagne sont acclamés par la foule. Et c'est ainsi, dans une atmosphère de chaude cordialité, que s'est déroulée cette visite qui apporte un élément nouveau à la construction de l'Europe future.
Quand j'allais à l'école, il arrivait qu'on me jette des pierres en me disant « sale espagnol ». C'était pas tous les jours. J'étais pas espagnol, mais j'étais étrangère.
Mireille, née en 1942 de parents polonais.
Il y avait beaucoup d'espagnols à Montpellier. Je sais pas quelle proportion d'espagnols il y avait, mais il y en avait beaucoup. Ils faisaient la fête, ils ont gardé leur culture et peut-être plus de fierté que s'ils étaient restés en Espagne parce qu'ils avaient suivi leurs idées. En partant en France, ils respectaient leurs idées. Voilà.
Il y avait les conditions matérielles, mais il y avait l'état d'esprit.
Carmen Guillén Salvador, colonia española de Béziers.
Des soldats, par exemple, qui ont été vraiment humiliés par cet accueil. Ils savaient bien que, bon, ils arrivaient en masse et que ça n'allait pas être facile. Mais ils ne pensaient pas qu'il y aurait ce mépris pour eux. Attention, ce n'était pas partout. Il y a eu des gens qui ont été super et qui ont aidé, qui ont fait ce qu'ils ont pu. Surtout des particuliers, d'ailleurs.
Il faut faire la distinction entre les pouvoirs politiques et le peuple français.
Emita Diaz de Begar, association Free.
La solidarité de la société civile a été très, 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 très importante, exactement comme ce qui se passe aujourd'hui avec les exils que nous connaissons. C'est les particuliers, la société civile, les associations qui viennent d'aide aux migrants. Ce n'est pas les pouvoirs politiques.
Certainement que ces gens-là seront les justes de demain.
Serge Mestre, écrivain, fils de réfugiés espagnols.
On essaye de les mettre en prison, de les empêcher de nuire selon les valeurs de ceux qui voudraient que les émigrés ne viennent pas ici. Qu'est-ce qu'ils viennent nous prendre, je veux dire. Ils viennent pas prendre, ils viennent faire. Peut-être que l'histoire se répète de ne pas être analysée, je dirais, d'une certaine façon. Cette façon de se distribuer ou de ne pas se distribuer les migrants est quelque chose d'absolument effroyable. On est en train de recommencer, malheureusement, mais peut-être parce qu'on n'analyse pas assez.
la situation s'est un tout petit peu normalisée en Italie. On n'a plus un Salvini qui aboie sans arrêt contre les ONG et les navires de sauvetage. Donc les caméras se sont détournées. Elles ne se braquent pas non plus sur nous qui, régulièrement, tous les 10, 15 jours, débarquons des survivants dans les ports à nouveau ouverts de l'Italie, à nouveau ouverts, mais difficilement accessibles encore. Hein. Il y a eu un préaccord à Malte qui n'a été ratifié que par 4 pays, mais on n'est pas sur un mécanisme parfait.
En Turquie, actuellement, il y a 3 millions de réfugiés, donc on voit un peu la très grande faiblesse des chiffres de ceux que nous accueillons en Europe et particulièrement en France.
Olivier Abel, philosophe.
Et du coup, ça devient une sorte de chantage de tous ces pays de la périphérie, ça peut être le Maroc, ça peut être la Turquie, qui en quelque sorte contiennent des flux de population, mais c'est eux qui tiennent les portes et donc qui peuvent ouvrir les portes. Nous sous-traitons notre frontière à des pays qui sont non démocratiques. Et donc là, il y a un partage tout à fait honteux, tout à fait hypocrite.
À un moment, je me suis dit que j'allais aider un peu, à ma mesure, ces gens qui arrivent dans le plus grand désarroi.
Victoria Place.
Et donc, j'ai quand même essayé d'aider à l'alphabétisation de migrants, iraniens un petit peu, mais beaucoup d'Afghans et de Soudanais. Ils venaient d'arriver, donc ils parlaient très très peu le français du moins, mais enfin on arrive toujours à se comprendre, et ils nous racontaient leur histoire, oui, et leur trajet pour venir, et leur famille restée là-bas, et pourquoi ils ont fui, et vraiment c'était des gens qui étaient extrêmement reconnaissants, et qui mesuraient vraiment la chance qu'ils avaient d'avoir des gens qui les accueillaient, qui voulaient les aider et tout, et alors si on prend le temps de discuter un peu avec, tout ce qu'on entend dire s'effondre, quoi. Du côté de mes parents, il y avait une idée de menace, parce que les forces de l'ordre venaient effectivement demander à nos parents d'acquérir la nationalité française. Alors ils mettaient en avant l'intérêt des enfants, bien sûr. Et c'est curieux aujourd'hui, parce qu'on ne demande pas spécialement aux migrants d'aujourd'hui de devenir français, quoi.
Que monsieur Plaza Jiménez Firmin, né le 11 octobre 1915 à Genève, Espagne, et réfugié espagnol, et qu'il est placé sous la protection juridique et administrative de l'Office. Oui.
L'OFI, qui est l'Office français d'immigration et puis intégration, on commence par ça.
Bakary.
On va là-bas, qui s'occupe des démarches administratives pour nous. Après, on s'en va à la préfecture pour laisser des empreintes, pour qu'ils puissent nous livrer des attestations, même s'il y a des contrôles, par exemple, qui prouvent qu'on peut rester. Ils sont au courant de tout ce que nos mouvements, comme ça. On est obligé de passer à la préfecture pour renouveler. Puis chaque fin de mois aussi, on passe à l'OFI pour notre attestation.
L'accueil d'une personne migrante,
Pierre-Louis Chevalier,
il y a une fraternité qui s'impose au-delà des idéologies. L'humanisme. Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger.
Je suis là et grâce à une dame, elle a laissé tous ses occupations, ce qu'elle faisait. Et donc, elle poursuivait mes procédures en m'aidant de tout. Oui. Mais là, aujourd'hui, je suis là pour préparer mon avenir.
J'aimerais faire ma vie ici. Si possible, un jour, de retourner aussi chez moi. Mais je pense que ce n'est plus possible pour le moment. Mais j'aimerais quand même vivre ici, mais entre les deux. Et sans couper le lien avec mon pays d'origine aussi.
Nous, dans notre imaginaire jusqu'à l'adolescence, on nous raconte, on nous dit tous les jours que de toute façon, c'est pas la peine de s'attacher à la France au mur, tout ça n'est que provisoire.
Abdelwahab Sefsaf.
On va rentrer en Algérie. C'est le rêve à tous, c'est le rêve à toute cette génération qui vient vraiment avec l'idée qu'on n'est que de passage. C'est quelque chose qu'on nous transmet même.
Les frères de ma mère, il est parti en France. C'était pas pendant la retirada, c'était avant.
Marina Puig.
Fin 38, début 39. Il faisait partie de la colonne de Ruti. Il est parti et ils ont cru qu'il était mort. 10 ans après, ils ont reçu un appel de la France. Alors c'était mon oncle qui voulait se marier avec une Française et il avait besoin de papiers. Ma grand-mère a été ravie de voir que son fils n'était pas mort.
Mon père a pu recontacter son frère.
Victoria Place.
4 ans, si ce n'est plus, après son arrivée en France. Des liens épistolaires. Ils s'écrivaient très régulièrement en faisant très attention. Il fallait surtout rien écrire dans la lettre qui puisse mettre en danger la famille restée en Espagne. Aussi, il y avait tout un système de dédicaces, de chansons sur une radio. Alors ça, c'est un souvenir où toute la famille était autour du gros poste TSF. On captait très très difficilement et on attendait la dédicace du tonton d'Espagne avec ferveur autour de ce poste. La question du retour n'était pas évoquée quand on était enfant. Franco était toujours là, donc il n'était absolument pas question d'y retourner. Probablement que mon père a pu en avoir envie parce que lui, il est venu seul. Mais après, ils ont construit leur vie là. Et puis après, il y avait les enfants, donc il n'était pas question de repartir parce qu'ils savaient que notre vie à nous était là. Je sais qu'il y en a qui sont repartis, hein, mais c'était trop risqué pour eux de revenir, c'est certain. Après, quand Franco est mort, leur vie était depuis longtemps en France, quoi.
Ça faisait 35 ans qu'ils étaient en France.
Carmen Guillén Salvador.
Il avait fini par s'intégrer. Beaucoup peut-être par les enfants aussi. Ils sont devenus des Français qui parlaient pas très bien le français, mais qui...
Durant mon enfance, l'injonction à l'intégration, elle existait. Nos parents, bien sûr, ont tout fait pour, puisqu'ils nous ont toujours parlé en français. C'était pas une injonction formulée, jamais.
Il m'est arrivé qu'on me dise « sale espagnol » quand j'étais gamin, mais c'est pas un ostracisme qui a laissé une trace.
Serge Mestre.
En même temps, mon père avait bien fait les choses parce que il m'a naturalisé à la naissance. Pendant très longtemps, j'étais le seul français de la famille. Petit français un peu particulier, puisque quand il rentrait chez lui, il parlait espagnol. Bon, en même temps, j'étais pas le cancre, hein. Je veux dire, j'ai travaillé plutôt bien. Donc, 15 ans, on m'a fait passer le concours de l'école normale. C'était les ascenseurs sociaux républicains de l'époque, dont mon père était admiratif. Et je les ai tous suivis, finalement.
Je n'ai jamais été, si j'essaye de me souvenir, confrontée à de la xénophobie, moi. Non. Alors mes parents ont été confrontés, parce qu'on a dit à mon père qu'il venait manger le pain des Français, ça je sais. C'était pas le village, quoi, ni la majorité du village. C'était une famille particulière qui supportait pas les étrangers.
Moi, je suis intégrée, j'ai pu faire mes études, mon métier, j'ai même été fonctionnaire française. J'ai été au lycée tout de suite en sixième parce que j'étais une bonne élève.
Mireille.
Mais quand en sixième, de première, on m'a rétrogradée seconde, on l'a dit en réunion de parents, on ne peut pas laisser en premier une étrangère. J'étais française.
Alors, je dis pas de xénophobie, oui, durant ma scolarité. Après, nous avons eu affaire à un couple d'instituteurs ancienne époque et à la limite de la maltraitance.
Victoria Plaza.
Comme on était bons élèves, ils étaient assez contents d'avoir les premiers du canton, puisque ça s'appelait comme ça pour le certificat d'études. À côté de ça, c'était des gens qui n'étaient pas bienveillants. Il est évident qu'ils étaient plus facilement durs avec nous qu'ils ne l'étaient avec les notables du village. On n'était pas, entre guillemets, respectables.
Le temps qui passe et les contingences se chargent donc souvent de régler, pour les exilés, la question du retour. Le rêve s'endort ou se heurte violemment à la réalité. Les traces mêmes de l'exil sont sacrifiées autant que possible sur l'autel de l'intégration, au risque de léguer aux générations suivantes, mais pour leur bien, pense-t-on, une mémoire ajourée qui traînera toujours au vent comme un filigrane obsédant. À charge pour qui le souhaite de reconstituer un puzzle à tout jamais incomplet, où se mêlent tant bien que mal l'intime et l'universel, l'oubli politique imposé et le silence meurtri des pères. À charge pour qui le souhaite d'entendre et d'interpréter cette bruyante absence de mots.
Oui, c'est une nécessité, la libération de la parole et puis surtout une prise de parole pour aider à la construction. Et je pense que c'est nécessaire chez tous les peuples meurtris par un exil.
Olivia Ruiz, musicienne.
Moi, j'aborde ce sujet par le prisme de l'Espagne parce que c'est mon histoire familiale. Mais n'importe quelle personne qui a vécu un exil ou qui est issue d'un exil, je crois, ressent à un moment donné ou un autre de sa vie cette nécessité de cesser de passer tout sous silence, de redevenir fier.
Chaque fois que je finis un livre, je dis « bon, c'est fini, je ne parle plus de la guerre d'Espagne ». Et chaque fois que je recommence, je parle de la guerre d'Espagne. Alors je ne sais pas comment ça va se régler tout ça. Je me suis mis à écrire ce livre qui s'appelle « Les plages du silence », une interrogation sur la façon dont mon père avait été accueilli en France.
Serge Mestre.
Tant que mon père était vivant, je ne me posais pas de questions puisqu'il était là. Il était là sans sa jambe, puisque mon père a été amputé d'une jambe, il a été combattant pendant la guerre d'Espagne, il a été blessé, il parlait très peu. Je ne lui posais pas trop de questions non plus, ce que j'ai surtout regretté au moment de sa mort. Et je me suis aperçu que je ne savais rien de lui, finalement.
C'est vrai que l'histoire de nos parents n'était pas abordée vraiment directement.
Victoria Place.
Mon père ne s'est jamais étendu sur l'arrivée en France, sur l'accueil dans les camps, tout ça, on le sait, mais vraiment par bribes, parce qu'il n'en parlait jamais en fait de ça.
Dans certaines familles maintenant, il y a des petits-enfants qui ne savent même pas que leurs grands-parents ont vécu cette histoire-là.
Carmen Guillén Salvador.
Il y a des gens qui n'ont absolument pas du tout parlé de ce qu'ils ont vécu.
Sí, he sufrido mucho. He sufrido mucho, mucho. No lo veo como un menos, sino como un más, ¿no? Un orgullo. Un orgullo.
Mûrissant, en vieillissant, après quand on a des enfants aussi, on sait, voilà, on a envie de leur transmettre un peu nos racines, qu'ils connaissent notre histoire, l'histoire de notre famille. Oui, ça oui, c'est vrai que je l'ai ressenti quand j'ai eu des enfants, l'envie vraiment qu'ils sachent d'où on venait, quoi.
Pour ce qui me concerne, je dis pas quelle est ma culture d'origine, je préfère pas. Mais mes petits-fils aussi, j'ai envie de les protéger de leurs origines.
Mireille.
Mais j'ai envie qu'ils sachent aussi, pour savoir se défendre, j'ai envie d'avertir qu'ils risquent de subir quelque chose qui ressemble au nazisme, quoi. J'y pense beaucoup.
Mais même, je dirais que parmi les descendants, donc bientôt les petits-fils, je pense que ce moment de commémoration est aussi un moment de réappropriation de leur propre histoire.
Odette Martinez-Maller.
Donc on peut dire tout ce qu'on veut des commémorations. Mais en même temps, ça peut être aussi l'occasion pour des jeunes de la troisième génération d'entendre des paroles, de voir des images, de retisser un petit peu le lien à une histoire qui ne leur avait pas été forcément transmise ou dont ils n'arrivaient pas à entendre le récit.
Dans ces années 80, nous étions qualifiés d'immigrés de deuxième génération. À l'époque, c'est comme ça qu'on nous qualifiait.
Abdelwahab Sefsaf.
Immigrés de deuxième génération. Et j'ai envie de dire pourquoi pas troisième et quatrième et 250e génération pour ne pas finalement dire français du futur. Voilà, nous étions des Français du futur.
J'ai toujours pensé qu'un déraciné, c'était quelqu'un qui était un petit peu comme amputé d'une jambe. C'est quelque chose que j'ai l'impression que les gens refusent de voir. C'est toujours dérangeant, la souffrance. Quand il s'agit de la perte de sa terre, on amoindrit beaucoup les choses. Et pour être absolument chauvine, régionaliste et amoureuse de mon Occitanie natale et de l'Aude plus particulièrement, moi, je mesure ça.
C'était Exil et accueil, de la retirada à aujourd'hui, une proposition de FM+, en partenariat avec Jazzine, Radio Languedoc et l'Écho des Garrigues, dans le cadre de la série Itinérance.
La dimension espagnole, c'est que, ben voilà, on est quand même issu de ça, donc consciemment ou inconsciemment, on le porte.
Un documentaire de Guylaine Dubois, Bruno Cessillon, Pascal Nieri, Paul Esgleas et Manuel Plaza. Entretiens additionnels réalisés par Gisèle Nakonaski et Marion Thibat.
L'exil, c'est brûler le fil d'Ariane en ne laissant que des vergetures de cendres sur le ventre d'une histoire passionnelle.
Écriture, réalisation, présentation et musique originale, Manuel Plaza, qui tient à dédier ce travail à la mémoire de Carmen Toro Arjona et Fermín Plaza Jiménez.
L'exil, pour survivre, l'oxymore moqueur ou la dérision d'une lente croisière sur le frisson calme des eaux du Styx.
Merci aux différents témoins, au poète Marcel Camille pour la lecture de son texte, à la violoncelliste Gaëlle Costil, au Théâtre du Grand Narbonne pour la mise à disposition d'extraits de l'émission Tout Oui, ainsi qu'aux éditions Gallimard pour l'aimable autorisation de diffusion des propos de l'auteur Eri De Luca enregistrés lors de la Comédie du Livre à Montpellier en 2007.
Je rappelle la phrase d'Hugo, le vers d'Hugo, « An exilons personne, à l'exil est impie ».
Itinérance, une production de l'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie, avec le soutien de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
Quand j'épluche mes pommes de terre, et que j'ai une pomme de terre lisse et une pomme de terre toute difficile à éplucher, je pense à la résilience. Je me dis, il y a une pomme de terre qui a poussé facilement, et une pomme de terre qui a dû rencontrer des cailloux, des trucs comme ça, qui a eu beaucoup de difficultés à pousser. Quand on va les manger, elles auront bon goût toutes les deux. Mais enfin, pour une, ça a été beaucoup plus dur que pour l'autre.